On est aujourd'hui le jeudi, tête à Darishon, on est le 14 février et on va continuer notre cours sur le premier conte de Rabbi Nachman, la princesse perdue, la fille du roi perdu, avec un très très bref résumé de ce qui a été dit dans le dernier cours. Et encore une fois, j'invite et je réinvite toutes les personnes qui suivent cette série de cours sur les contes de bien écouter les cours qui précèdent, puisqu'il s'agit de cours suivis. À chaque fois, je reprends l'histoire dans le milieu de l'histoire. Je ne la reprends pas au début à chaque fois. Donc il est clair que ceux qui rentrent dans ces cours sans avoir bien en tête les cours qui précèdent ne vont pas véritablement bien comprendre de quoi il s'agit. Donc c'est une série qu'il faut absolument suivre depuis le début et donc écouter, réécouter au moins les deux derniers cours de manière à être préparé pour le prochain et les prochains cours. Quoi qu'il en soit, on avait donc vu, je ne rentre pas dans toutes les explications données dans le précédent cours, on avait vu au niveau donc de la forme imagée de l'histoire que la fille du roi disait donc au serviteur du roi qui la recherche depuis des années pour la ramener à son père, elle lui dit donc tu vas pendant un an t'isoler, tu vas pendant un an bien réfléchir sur le sens de ma captivité, jusqu'à ce que tu prennes véritablement, profondément, authentiquement conscience de la situation dans laquelle je me trouve, et le dernier jour de l'année, tu viendras me chercher, tu pourras me récupérer. Mais attention, le dernier jour de l'année, tu dois faire particulièrement attention de ne pas ni manger, ni boire, ni dormir, tu dois rester complètement, totalement éveillé, et tu dois aussi ressentir le manque de mon absence, et ce ressenti passera par le fait que toi-même tu ne mangeras pas. Alors bien sûr, on avait expliqué au niveau du décodage, au niveau du sens profond, ce qui se cache derrière toutes ces demandes, et bien évidemment il faut réécouter le cours que j'ai déjà donné cette semaine à ce sujet-là. On continue l'histoire, donc pour l'instant on va lire pas mal de passages, et seulement après, je commencerai à commenter. Ube sof hashana, beyom ha'acharon haya mitane. Donc, est arrivé le dernier jour de l'année, et ce dernier jour, donc, il a essayé d'accomplir ce que la princesse lui avait demandé, de ne pas manger, velo haya yoshen, et de même de ne pas dormir, puisque manger et dormir, comme on l'a décodé dans le précédent cours, ce sont les deux principales causes de notre refus, de notre oubli de réaliser notre mission, de libérer la malchoute, de libérer la royauté, c'est-à-dire de révéler que Hachem dirige ce monde, parce que lorsque l'on a le ventre plein et que finalement on s'endort, c'est-à-dire qu'on passe complètement à côté du véritable sens, du véritable but de notre vie, de notre existence, il est clair qu'on ne pourra pas libérer la fille du roi. Donc, Ve'amad ve'alar lesham, content d'avoir accompli tout ce que la princesse lui avait demandé, il est donc reparti pour aller la chercher dans son palais, étant sûr qu'il pourrait la sortir et la ramener à son père. Vayaroïla, mais sur le chemin, en chemin, il voit un arbre. Ve'alav gdelim tapuchim na'im me'od. Et sur cet arbre, des pommes extrêmement belles. Évidemment, tout le monde comprend, au niveau du premier sens du décodage, que ça fait allusion, comme on va le voir, à la faute d'Adam, qui lui aussi a vu un arbre avec des fruits extraordinaires. Et ses fruits étaient tellement beaux que ses yeux ne pouvaient plus se détacher de ses fruits. Et il a craqué. C'était trop fort. Et finalement, il en a pris et il les a mangés. Et dès qu'il a mangé de ce fruit, de la pomme, Nafal, il est tombé, Vechataf Shena, et il s'est endormi. Il a dormi un long moment, bien évidemment, des jours, des semaines, des mois. Et le jour, aujourd'hui, où il aurait dû arriver au palais et la libérer, ce jour, bien évidemment, est passé. Vayar Mesharet Menaeroto, son serviteur, essayait par tous les moyens de le réveiller. Veloyan Niorklal, mais il s'était effondré dans un sommeil tellement puissant, tellement profond, tellement fort que impossible de le réveiller. Vaharkarikit, Mishnato, Veshale Mesharet, lui-même, après un long moment, s'est réveillé et il demande à son serviteur, mais où je suis? Mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Mais si Perlo Hamas, et son serviteur lui a tout raconté. Ça fait des années que tu dors, j'ai tout fait pour te réveiller, mais impossible. Moi-même, je t'ai attendu et je mangeais moi-même des fruits de cet arbre pour pouvoir te surveiller, te protéger et attendre que tu te réveilles. Et quand le second du roi, donc le conseiller du roi, a entendu ce qui lui était arrivé, il a sombré dans une très grande tristesse. Malgré tout, il s'est dit, écoute, bon, on y va quand même, on ne sait jamais, peut-être qu'on va la trouver, peut-être qu'on pourra la sortir de là. Et quand elle l'a vu, à nouveau, il a pu rentrer sans aucun problème, tout le monde le laisse rentrer, personne ne lui dit rien, comme on expliquait dans le précédent cours. Et il arrive jusqu'à elle, il la trouve dans un état de tristesse profonde, totale. Et elle lui dit, Kilou bata beyom beotoyom, et tu viens aujourd'hui, des années après, mais c'était le jour en question qu'il fallait venir. Parce que si tu étais venu ce jour-là, ce jour-là, il n'y aurait eu aucun problème, tu aurais pu me sortir de là. À cause de ce jour-là, tu as tout perdu. Aujourd'hui, tu ne peux plus me sortir de là. Tu crois que tu vas me prendre par la main, tu vas me sortir. J'ai expliqué, tout ce que tu vois, cette gentillesse, on te laisse rentrer, on te laisse sortir, personne ne te pose de questions, d'où tu viens, qui tu es, on te laisse me parler, tout ça, c'est une vitrine. Mais ose essayer de me sortir de là. Tu seras découpé en morceaux. Si tu avais fait ce que je t'ai demandé, le jour en question, si tu étais venu jusqu'à moi sans manger et sans dormir, là tu aurais pu me sortir. Mais maintenant c'est fini. Elle lui dit, regarde, je prends conscience que je t'ai peut-être demandé quelque chose de trop difficile. Ni manger, ni dormir. Alors tu sais quoi? Je ne te demanderai plus de ne pas manger la prochaine fois que tu viendras me chercher. Bifrat biyom acharon, surtout que le dernier jour, le jour où tu es censé pouvoir me libérer, az mitgaber et yetzer hara meod, toutes les forces contraires sont là pour t'empêcher de réaliser ta mission. C'est pour ça que tu es tombé. Toute l'année, tu es arrivé à faire ce que je t'avais demandé, de jeûner de temps à autre et d'essayer de ne pas trop dormir. Le dernier jour, j'avais insisté, ni dormir ni manger. Et toutes les forces contraires se sont acharnées contre toi pour te faire tomber. Elles sont arrivées à te faire tomber. Et on est reparti encore une fois pour des années. Alors tu vas repartir encore une fois pendant un an, mais je ne te demande pas de ne pas manger le dernier jour. Parce que je sais que tu n'arriveras pas à tenir, les forces contraires sont beaucoup trop puissantes. Donc tu repars pendant un an, tu t'isoles à nouveau pendant un an. Tu retravailles sur ta conscience pendant un an. Mais t'es chef Gamken Shena. Et tu attendras pendant un an. Je te préviens déjà d'avance, lui dit la princesse, le dernier jour que tu pourras manger. Mais malgré tout, il y a deux conditions. Dormir, ça je ne peux pas te laisser dormir. Parce que c'est la mise en condition la plus importante. Ne pas dormir, parce que le monde entier dort. Le monde entier, finalement, s'est construit des rêves qui n'existent que dans leurs fantasmes, dans leurs illusions. Des existences qui sont comme un rêve, comme dit le roi David au moment de la délivrance, Azaïnou Kecholmi, nous serons comme des gens qui se réveillent d'un long rêve. Chacun s'était créé avec ses propres fantasmes, ses illusions, ses rêves. Que mon idéal c'est ça, mon idéal c'est ci, ma religion, ma croyance, mon idéologie. Mais ce n'était que des rêves, que des illusions, que des fantasmes. Tout le monde dort, l'humanité entière dort. Donc toi, fais attention de ne pas dormir comme tout le monde. Sois éveillé, même si tu es le seul à ne pas dormir. Le dernier jour, je t'en prie, ne dors pas. Tu as besoin d'être éveillé pour me libérer. Velotishteyaïn. Et une autre condition, ne bois pas de vin. Ça nous ramène à Noach, qui lorsqu'il sort de l'arche, se met à boire du vin. Velotishteyaïn. Kedeshelotisham. Parce que si tu bois du vin, à nouveau tu t'endormiras. La première fois, tu as vu un arbre avec des fruits. Je t'ai dit, ne mange pas, tu as mangé, tu t'es endormi. C'est la faute de Adam Arishon. La deuxième fois, je te dis, ne dors pas et ne bois pas du vin. Si tu bois du vin, tu t'endormiras. C'est la faute de Noé. Qui a Ikaru Hashena, parce que finalement, l'essentiel, c'est de ne pas dormir, comme j'ai expliqué. Va à l'arbre à Saken. Il est reparti. Et pendant un an, à nouveau, il s'isole. Et il se prépare à revenir au bout de l'année. Le dernier jour. Beyom Acharon, le dernier jour, Aya Olech Lesham, à nouveau il est parti en direction du palais pour aller libérer la princesse. Vera Amaayan, et tout d'un coup il voit une source. Olech Vamare Edom Vare Archeliaïn, il s'approche de la source et il voit que l'eau, au lieu d'être claire, blanche, l'eau est rouge. Et il s'approche et l'eau a une odeur de vin. Meshalet Ameshamet, il demande à son serviteur, Araïta Shezé Mayan, mais qu'est-ce qui se passe? C'est une source ou c'est du vin? Qu'est-ce que c'est? Ça a apparemment la forme d'une source, mais ça a la couleur et l'odeur du vin. Ça devrait normalement être de l'eau claire, et c'est rouge, et ça a l'odeur du vin. Et à nouveau, sa curiosité l'a amené à goûter de cette eau. Et évidemment, la princesse lui avait dit, surtout ne bois pas de vin. Et il s'est endormi pour 70 ans. 70 ans, impossible de le réveiller. À nouveau, il est passé à côté. Et pendant ces 70 ans, sont passés à côté de lui de nombreux cortèges de soldats qui amenaient avec eux des personnages inconnus que les soldats emmenaient vers une direction inconnue. Et le serviteur du conseil du roi s'était caché parce qu'il avait peur de ce défilé constant d'armées entières qui emmenaient avec eux des personnages inconnus vers une direction inconnue. Et il s'est caché. Et en fin de compte, le dernier cortège qui est passé était encore une fois une armée, mais cette fois-ci, il y avait un carrosse dans lequel se trouvait la fille du roi. Et quand la fille du roi est passée et qu'elle a vu un personnage qui dormait, elle l'a reconnu. Elle a demandé un instant qu'on la laisse sortir. On l'a laissé sortir. Elle s'est approchée près du conseiller du roi qui était censé la libérer 70 ans auparavant et qui maintenant dormait. Elle l'a reconnu. Elle a secoué. Mais réveille-toi. Jusqu'à quand? À chaque fois qu'arrive le jour où je devais être libéré, à chaque fois il se passe quelque chose, à chaque fois on est reparti pour des années. Mais réveille-toi. Veloninar, impossible de le réveiller. Veitrila l'igbol alav asher kama vekama yigiot trichot dolot meod shayalo ze kama shanim kedi lotzi oti. Et elle a commencé à se plaindre, elle dit, mais c'est pas possible, mais jusqu'à quand? À chaque fois que je crois que le moment est arrivé, à chaque fois il se passe quelque chose. Ça fait des années que j'attends et des années que lui aussi essaye de me libérer. Et à chaque fois qu'arrive le jour de la délivrance, à chaque fois il se passe quelque chose et hop, il est reparti pour des années de sommeil et je suis toujours prisonnière. À chaque fois le même jour où il doit me libérer, qu'il se passe quelque chose qui remet tout en cause. Et elle pleurait. Jusqu'à quand? Tu n'auras pas pitié de nous, de lui qui veut me libérer et de moi qui suis prisonnière, s'adresse-t-elle à Hachem. Chez Kol Kazman Shanikan, je n'en peux plus de cet emprisonnement. Veni Yachol Atzed, personne n'arrive à me libérer. Achakar Lakra Pashtil, et après elle a pris son foulard, mais Al Rocha, qui était sur sa tête. Et Kadva Alav Vedmaot, elle a écrit des phrases avec ses larmes. Venicha Etzlo, elle a laissé son foulard avec un texte écrit avec ses larmes, elle l'a laissé près de lui. Elle est retournée dans son carrosse et elle est partie. Finalement, il s'est réveillé et il a demandé à son serviteur, mais où je suis? Mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Mais qu'est-ce qui se passe à chaque fois? À chaque fois que je suis censé la libérer, le jour même, je retombe dans un sommeil tellement profond que personne n'arrive à me réveiller. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais si Perlo Kolama, c'est son serviteur, lui a tout raconté. Shachialot Rabot Al-Khushan, tu ne peux pas savoir combien d'armées sont passées à côté de toi. Mais Shaita Khan Merkava, et finalement, la dernière armée qui est passée, c'était l'armée qui emmenait je ne sais où la fille du roi. Mais Shaita Bocha Alav, elle est venue près de toi, elle s'est mise à pleurer. Vaita Tsoeket Shiesh Rahmanut Alav, Ve'alea, elle a pleuré, combien toi et elle, vous vous trouvez dans une situation incompréhensible. Mais Torkaritis Vera, puis après il a vu, il a vu un foulard de femme qui était à ses côtés. Mais Charles Merinze, il lui a dit, mais d'où vient ce foulard? Il a demandé à son serviteur. Veshivlo, il lui a dit, chez Ikatva la Bedmaot, non, c'est le foulard à la princesse, elle a écrit quelque chose avec ses larmes. Mais la Kraveri Mota Keneged Hashemesh, il l'a pris, il l'a mis à la lumière. Et il a vu apparaître les lettres. Il a lu toute sa tristesse qu'elle lui avait écrite, toutes ses larmes, toute sa souffrance. Et la dernière phrase était la phrase suivante. Elle lui dit, sache, c'est plus la peine d'aller au château, je ne suis plus là-bas. On est en train de m'emmener vers un endroit où je serai prisonnière à l'intérieur d'un château en or, une montagne en or et le château de pierres précieuses. Voilà le code qu'elle lui donne. Tu chercheras une montagne en or et au-dessus de cette montagne, au sommet, un château de pierres précieuses. Il s'est repris en main et il est parti la chercher. Il est parti tout seul. Il n'a pas pris son serviteur avec lui. Et pendant de nombreuses années, il l'a cherché. Et jusqu'au moment où il a pris conscience et il s'est dit, c'est sûr qu'un endroit comme ça, une montagne en or et un château en pierre précieuse, je ne trouverai pas là où tout le monde a l'habitude de vivre. C'est-à-dire là où se trouve, on pourrait dire, le monde civilisé. Parce que je sais très bien que si un endroit pareil existait là où tout le monde vit, tout le monde en parlerait. Donc cet endroit se trouve forcément dans un endroit où personne ne va, que personne ne connaît. Donc je vais repartir une fois de plus dans des endroits complètement désolés, inhabités, des déserts. Et il la chercha pendant de nombreuses années dans les déserts. Bien sûr, le texte n'est pas encore fini, le conte n'est pas fini. On va s'arrêter là maintenant, au niveau de l'histoire, et on va commencer à commenter. Alors, j'ai déjà souvent rapporté cette histoire dans le Talmud, qui raconte l'histoire de deux maîtres qui se promenaient, et tout d'un coup, l'un demande à l'autre, « Est-ce que tu sais quand viendra la fausse couche ?» Et l'autre lui dit, « C'est qui la fausse couche ?» Il dit, la fausse couche, mais c'est le Mashiach. Il dit, comment? Tu oses appeler le Mashiach une fausse couche? C'est-à-dire le fœtus qui est sorti avant son terme et qui est mort? Il lui dit, oui, absolument. Le Mashiach s'appelle la fausse couche. Il s'appelle Nafel en hébreu, qui veut dire fausse couche, le tombé, mot à mot, traduction littérale. Comme il est dit, Arachamanu yakim lanu et sukat David anofelet, que nous prions tous les jours pour que le maître du monde relève la royauté de David, qui est nofelet, qui a un statut de fausse couche. Et donc c'est pour ça que je l'appelle la fausse couche. Point. C'est une histoire dans le Talmud, donc une histoire entre les maîtres d'Israël complètement codée. Et bien évidemment, notre travail est de la décoder, à notre niveau bien évidemment. Alors nos maîtres expliquent pourquoi la royauté de David, qui est en vérité la royauté d'Hachem, pourquoi s'appelle-t-elle fausse couche? Parce qu'il y a eu de nombreuses tentatives dans l'histoire, de nombreuses tentatives qui auraient pu aboutir à la délivrance. Exactement comme un enfant dans le ventre de sa mère qui, pour qu'il puisse y avoir délivrance, d'ailleurs l'accouchement s'appelle même en français délivrance, pour qu'il puisse y avoir accouchement, il faut attendre un certain temps, 9 mois. Mais si jamais il y a une perturbation avant et que, malheureusement, l'enfant sort avant, s'il sort avant, trop tôt avant, il va mourir. Et donc, nos maîtres expliquent qu'il y a eu de nombreuses tentatives dans l'histoire qui aurait pu aboutir à la délivrance, mais à chaque fois il s'est passé quelque chose qui fait que finalement, au lieu que ce soit la délivrance, c'est la mort. C'est pire encore, puisque finalement, la naissance d'un enfant amène une joie inimaginable et une fausse couche amène une tristesse profonde, une brisure, un trauma très 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 profond, surtout si c'est après 5 ou 6 mois ou 7 mois. Que la maman s'attendait déjà avec impatience à pouvoir vivre ce moment de bonheur qui a la naissance, et finalement ce bonheur se transforme en horreur. C'est exactement ce qui s'est passé dans l'histoire. Il y a eu encore une fois de nombreuses tentatives de délivrance, mais à chaque fois elles ont échoué, et la délivrance s'est transformée en catastrophe. On voit dans cette histoire effectivement une allusion à cette possibilité d'une délivrance. Mais c'est précisément au moment où la délivrance devrait se produire que tout se transforme en catastrophe. Bien sûr, le décodage au niveau de l'histoire, c'est qu'arrive le dernier jour de l'année, après une longue préparation réussie, donc normalement on devrait mériter la délivrance, et puis toutes les forces contraires s'y mettent pour empêcher que l'enfant ne puisse naître réellement. Et au lieu que ce soit une véritable naissance, c'est un enterrement, une catastrophe. Précisément le jour où la princesse aurait dû être délivrée. Précisément le jour de la délivrance. On voit de là qu'effectivement, il y a quelque chose de mystérieux qui se passe, comme Rabbi Nachman en fait allusion dans les propos de la princesse. Le dernier jour, le Yetzer Hara, toutes les forces du mal se réunissent pour empêcher la délivrance. Et donc, il y a quelque chose qui fait que, justement, au moment où la lumière devrait jaillir et éclairer le monde entier, c'est à ce moment-là qu'il y a un sursaut de toutes les forces de l'obscurité, de toutes les forces du mensonge, pour empêcher la vérité d'éclairer le monde. Et jusqu'à la délivrance finale, toutes les tentatives de la vérité de naître pour éclairer le monde, toutes ces tentatives se sont soldées en catastrophe. Presque il aurait mieux valu qu'il n'y ait pas de tentative, ça aurait été moins grave, moins pire. La tentative de libérer la vérité amène jusqu'à la délivrance finale et réelle plus de catastrophes que de réussites. Bien évidemment, dans l'histoire, on voit aussi l'allusion qui va nous permettre de comprendre plus profondément à la faute de Adam et à la faute de Noé. Puisque la faute de Adam au niveau du code, c'était qu'il a mangé des fruits de l'arbre. Et la faute de Noé au niveau du code, était qu'il a bu du vin en sortant de l'arche. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien évidemment, les maîtres des secrets nous expliquent que précisément le jour où Adam a mangé, Adam et son épouse, était le jour où s'il n'avait pas mangé, à ce moment-là, il réussissait le tikkun du monde, la réparation du monde. Et la lumière messianique se serait dévoilée. Précisément ce jour-là est venu le Mashiach. C'est même pas moi qui parle. Est venu le Nahash. Pourquoi j'ai dit le Mashiach? Pourquoi on m'a fait dire le Mashiach? Parce que, comme vous le savez tous et toutes, Nahash, en hébreu serpent, a la même valeur numérique que le mot Mashiach. Le Mashiach peut être un serpent. Ça veut dire évidemment le faux Messie. Et là, on comprend beaucoup plus profondément. À chaque fois que dans l'histoire, la vraie vérité devrait se révéler, les forces contraires nous attaquent en essayant de remplacer la vérité vraie par un vrai mensonge. Le serpent, valeur numérique Mashiach, au lieu du véritable Messie. Et comme ça, il détourne l'attention du monde vers le faux Messie, et tout le monde passe à côté du vrai Messie. Les exemples sont tellement énormes. Nos maîtres nous disent clairement dans le Talmud que dans les décennies qui suivent la destruction du deuxième temple, on était dans une époque extrêmement propice au dévoilement du Mashiach. Nos maîtres nous disent explicitement que, en tant que bébé, le Mashiach est né au moment où Titus rentrait dans le Saint des Saints, dans le Kodesh HaKodashim, et il mettait le feu. À ce moment-là, dans la Haute-Galilée, une femme a hurlé, a poussé son dernier cri et sorti un enfant qui était le Mashiach de la génération, si la génération l'avait mérité, un véritable descendant du roi David, qui pouvait en quelques années, 10, 15, 20 ans, se dévoiler et devenir le Mashiach. Un autre texte des maîtres d'Israël, Rabbi Akiva, pensait réellement que Bar Korba, qui était un descendant direct du roi David, était lui aussi un Mashiach potentiel. Il l'a soutenu, il a clairement et carrément dit et fait savoir que lui pensait, Rabbi Akiva pensait que Bar Korba était le Mashiach. Et finalement, ça s'est soldé en catastrophe, la chute de Bétar et un bain de sang inimaginable. Et peut-être le véritable début de l'exil, du quatrième exil qui dure depuis 2000 ans. Même si on commence et on a commencé déjà depuis de nombreuses décennies à en sortir. Mais on est toujours, d'une certaine manière, encore sous l'emprise de l'exil de Édom. Et donc, on voit que nos maîtres nous disent, et un troisième texte que j'ai oublié, le Talmud dit clairement qu'à partir de la destruction du deuxième temple, l'ère messianique a commencé. Combien de temps elle durera, jusqu'à ce qu'on mérite qu'elle se transforme en véritable délivrance, ça ne dépend que de nous. Donc c'est clair que nos maîtres nous disent qu'après la destruction du deuxième temple, on se trouve dans une situation, on pourrait dire électrique, où vraiment le Mashiach peut se dévoiler à n'importe quel moment. Et c'est précisément à cette époque qu'est venu, ou que l'on a fait venir, un faux Messie qui a détourné l'attention de l'humanité tout entière, qui s'est fait passer pour le Messie, et on en souffre depuis 2000 ans. Et au départ, n'oublions pas que ce faux Messie était 100% juif. Et il n'était reconnu que par des juifs. C'est exactement ce qui s'est passé, c'est ça le secret incroyable de la faute de Adam. Précisément au moment où Adam peut faire jaillir la lumière du Mashiach, se présente un faux Messie, le serpent, qui va détourner l'attention du monde, qui va faire croire que lui est le vrai Messie, et on est reparti pour des millénaires. C'est ça le secret du serpent qui s'adresse à Chava. C'est ça le secret de la chute de Chava. C'est quoi le symbole du fruit qui capte les yeux? C'est évident, c'est tellement facile le décodage. C'est l'idéologie du faux Messie qui est tellement belle, qui est tellement waouh, qui est tellement prenante, qui est tellement attirante. Mais comment on peut résister à une idéologie pareille? C'est tellement fort, c'est tellement beau. Surtout, à côté de l'idéologie véritable, celle du maître du monde, qui se présente comme quelque chose de rigoureux, la loi, c'est interdit, tu ne mangeras pas. Eh bien, le faux Messie, le serpent, dit, mais au contraire, je suis venu pour abolir l'interdiction. Mange, regarde comme cet arbre est beau. C'est précisément celui qui est interdit, qui est le plus beau de tous. Et il profère une idéologie tellement extraordinaire que Raphaël Allen dit, mais c'est évident. Mais comment ça peut être interdit? Mais pourquoi interdire? Mais tout est beau, tout est amour, tout est extraordinaire. Waouh! Oh! Oui, le Messie est là! Il nous sauve! Elle prend, elle mange, elle meurt. Et l'histoire se répète depuis des millénaires. Depuis des millénaires. C'est à chaque fois l'habit qui change, mais le principe reste le même. À chaque fois que le monde est prêt à la délivrance, vient un faux messie qui arrive à produire une idéologie tellement attirante, tellement belle, que les yeux se fixent, que les oreilles... Waouh ! Et hop, on est reparti pour un tour. L'idéologie du faux messie est beaucoup plus séduisante que l'idéologie du vrai messie. La preuve. On est quelques millions à suivre la Torah jusqu'à aujourd'hui, ou à se réclamer comme étant le peuple de la Torah, mais c'est pas tous les juifs qui observent la Torah. Je peux dire qu'on est, peut-être qu'il y a peut-être maximum 1, 2, 3 millions de juifs sur Terre qui accomplissent vraiment la Torah, et des milliards qui sont complètement enfoncés dans d'autres religions. Des milliards. 1 ou 2 ou 3 millions qui suivent la Torah et des milliards qui suivent les autres religions. Il est fort, très fort le serpent. Très, très, très fort. Extraordinaire. La faute de Noé, c'est exactement la même chose, disent nos maîtres. Combien de fois je les ai expliqués dans mes cours. Il avait 3 fils. Shem, Ham, Yafet, dont les premières lettres forment le mot Siyar. Qui sont les trois dernières lettres du mot Mashiach. Il voulait amener un 4e enfant au monde, qui se serait appelé d'un nom commençant par la lettre même, et les 4 ensemble auraient formé le mot Mashiach, Messie. Ce sont des codes, bien sûr, mais tout ça pour nous faire comprendre que, après le déluge, Noah vivait dans une période messianique très 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 forte. Il pouvait recommencer le monde sur des bases messianiques. Le monde de la délivrance. Et comment il est tombé, lui? Exactement comme dans l'histoire. Où l'histoire, finalement, fait allusion à sa chute à lui. On est reparti pour un tour. Il boit du vin. Il se déshabille dans sa tente. Vient Ham avec son fils Knaan. Il le castre pour qu'il n'ait pas un 4e enfant. Pour que finalement, il ne puisse pas y avoir Mashiach, selon notre tradition. Incroyable. Justement, pendant le temps de la délivrance, on va se retrouver dans le temps de l'exil le plus sombre. On est reparti pour un tour. Cette histoire, au niveau collectif, au niveau des nations et d'Israël, est vraie bien évidemment aussi sur le plan individuel. Constamment dans notre vie, on est dans des périodes d'obscurité, et puis on essaye de s'en sortir, on sent qu'on avance. Et puis, une porte va s'ouvrir. Si on la prend au bon moment, de la bonne manière, on est sauvé. Mais c'est précisément le jour où la porte s'ouvre que toutes les forces contraires vont se rassembler pour t'empêcher de voir que la porte s'ouvre. Mais pire encore, les forces contraires vont ouvrir une autre porte, une fausse porte qui, elle, si tu la traverses, te fait tomber dans l'abîme, le faux messie. C'est comme ça que ça fonctionne tout le temps. Quand la porte de la délivrance est prête à s'ouvrir, rappelons-nous qu'au même moment, la porte de l'abîme, la porte de la mort s'ouvre elle aussi. Jamais la porte de la délivrance ne peut s'ouvrir sans que la porte de la mort s'ouvre elle aussi. Et là est tout le problème, tu choisis le vrai messie ou le faux messie. Parce que bien évidemment, comme je l'ai expliqué, la porte de la mort ne se présente jamais comme une porte sombre. Au contraire, comme une porte qui fait peur, que personne ne veut s'approcher d'elle. Au contraire, Les fruits sont somptueux, sont merveilleux, sont extraordinaires. L'odeur du vin dans la deuxième histoire est... Waouh, quel vin! Comment je peux résister? Mais comment? C'est impossible. C'est-à-dire qu'ici, le décodage est d'une... On peut dire d'une simplicité infiniment profonde. Les faux messies présentent toujours une idéologie, un idéal tellement plus beau, tellement plus fort, tellement plus extraordinaire que la vraie vérité, que personne n'arrive à tenir. Parce que je vois la vraie vérité d'un côté, je vois le vrai mensonge de l'autre, mais le vrai mensonge est tellement plus attirant, tellement plus beau. Et hop, on est reparti dans un profond sommeil. Et toute l'histoire humaine tourne autour de ce principe. À chaque fois qu'un homme, à titre individuel, ou qu'une nation, ou que les nations, l'humanité, est sur le point d'être sauvée, vient un faux messie, beaucoup plus attirant que le vrai messie, et il arrive à attirer la majorité du monde vers lui. Et on est reparti pour un très profond sommeil qui durera des années encore. Alors comment s'en sortir? Puisqu'on voit que une fois il est tombé, deux fois il est tombé, évidemment, les deux fautes, celle de Adam et celle de Noé, font aussi bien évidemment allusion aux deux destructions de temples. Chaque temple était une délivrance potentielle pour Israël et l'humanité tout entière. Et chaque temple a été détruit. Les deux premiers constructeurs potentiels de l'humanité, Adam et Noé, ont tous les deux chuté et retardé la délivrance pour des millénaires. Et les deux premiers temples qui avaient la potentialité de libérer le monde ont été détruits. C'est la même histoire. Constamment. Alors bien évidemment que l'histoire se terminera comme on le verra de manière positive. Finalement, il arrivera à la libérer, la fille du roi. Il y a encore énormément de messages que nous allons décrypter ensemble. Mais il semblerait que, puisque la Torah nous présente les choses de cette manière, puisque l'histoire s'est produite de cette manière, première destruction de temple, deuxième destruction de temple, il semblerait que c'est un ta'alir, que c'est un processus incontournable, inévitable. On ne peut pas arriver à la délivrance finale directement. On est obligé de passer par des destructions dues aux faux messies, aux fausses idéologies, aux fausses religions. Et ce n'est que, on pourrait dire, qu'à la troisième expérience que finalement, on arrivera à s'en sortir. Ce qui correspond, le troisième personnage après Adam et Noé, c'est bien sûr le Mashiach. Par rapport au temple, c'est le troisième temple. Mais ce qui est très intéressant, par rapport aux trois pères fondateurs, là aussi on retrouve le chiffre 3. Abraham n'a pas totalement réussi, est sorti de lui Ishmaël. Yitzhak n'a pas totalement réussi, est sorti de lui Esav. Seul Yaakov réussira en ce sens que de lui n'est pas sorti un ennemi d'Israël, bien que malgré tout, dans un premier temps, il est loin de réussir, puisqu'il n'arrive pas à faire la paix entre ses enfants, et justement cette querelle entre ses enfants amèneront énormément de catastrophes. Mais au moins la différence entre Yaakov et ses pères qui l'ont précédé, c'est que lui ne créera pas une force qui s'exclura d'Israël et qui essaiera de l'attaquer constamment. C'est un problème intérieur. Donc qui finira par se résoudre, comme le dit le prophète, un jour viendra où on prendra deux morceaux de bois, sur l'un on marquera le mot Yosef ou Ephraïm, sur l'autre le mot Yehuda, et on réunira, c'est le prophète Ézéchiel, on réunira ces deux morceaux de bois qui ne deviendront qu'un seul morceau, et enfin Israël sera reconstruit constamment sans cette déchirure à l'intérieur de lui. Alors pourquoi il faut trois étapes? Ça aussi, c'est un point que j'ai souvent expliqué. Si on revient au Père, on le comprend plus facilement. Abraham incarne la qualité de la bonté. Yitzhak incarne la qualité de la rigueur. Et Jacob est la synthèse des deux. Décoder, qu'est-ce que cela signifie ? Que finalement, que tous les faux messies créent des idéologies extrêmement séduisantes parce qu'elles se concentrent sur une qualité particulière. Le faux messie qui est venu après la destruction du deuxième temple ne parlait que d'amour, que de grâce, que de salut. Mais qui n'a pas envie d'amour ? Le faux messie politique que nous vivons ici en Israël, c'est toute l'idéologie de gauche qui ne parle que de paix. Et qui n'a pas envie de paix ? Heureusement, il aura malheureusement fallu des dizaines, des centaines d'attentats et des milliers de victimes depuis les accords d'Oslo pour que notre peuple comprenne une fois pour toutes le mensonge qui se cachait derrière ce besoin destructeur de paix. Et c'est pour ça que la gauche n'a plus aucun crédit en Israël. Et malheureusement, combien d'hommes et de femmes et d'enfants ont payé de leur vie cette prise de conscience, ici, en Israël. Et donc la gauche n'en viendra plus jamais au pouvoir. On est enfin arrivé à écraser la tête du serpent. Mais c'est le même principe. Pourquoi, jusqu'à ce que les attentats deviennent de plus en plus cruels, meurtriers, pourquoi la majorité d'Israël suivait les accords d'Oslo ? Et parce que l'idéologie se concentre sur une notion que personne ne peut oser dire « je n'en veux pas ». Surtout un juif. « Je ne veux pas la paix ». Ça fait des millénaires que nous terminons toutes nos prières 3 fois par jour en disant « celui qui fait la paix en haut fera aussi la paix en bas ».« Ose shalom bimroma vuyase shalom aleinu ». Et notre capitale s'appelle Yerushalayim. Tous ceux qui connaissent l'hébreu savent que la racine du mot Yerushalayim, c'est le mot Shalom, la ville de la paix. Un juif ne veut pas la paix. Ça n'existe pas. Si vraiment vous entendez un juif vous dire « je ne veux pas la paix », vous pouvez être sûr et certain qu'il n'est pas juif. C'est impossible. Alors quand la gauche vient avec une idéologie, la paix, mais qui ne va pas la suivre ? Jusqu'à ce qu'on ait quelques centaines de bus qui explosent. Et là, on comprend que c'était le serpent qui voulait la paix, pas le peuple juif. Et donc, c'est ça la force du faux messie. Il va mettre en évidence une qualité que l'humanité entière veut. Et il va tellement, tellement l'embellir, cette qualité, que tout le monde va la vouloir et tout le monde va tomber dans l'abîme. L'amour, la paix. Liberté, égalité, fraternité. Mais qui ne veut pas suivre ? La libération du travailleur, la révolution bolchevique. La mise à bas de ce pouvoir tsariste qui exploite 99% de la population. Mais qui ne veut pas suivre ? Le faux messie est le spécialiste de la mise en évidence des qualités que tout le monde veut et dont tout le monde rêve. Ce que personne ne sait, c'est que, regarde, qui met en évidence cette qualité ? Le vrai messie ou le faux ? Et jusqu'à aujourd'hui, ça a toujours marché. Toutes les révolutions idéales, idéalistes, ont entraîné une grande partie de l'humanité qui après est tombée dans l'abîme. Alors comment on va repérer, comment on va savoir, comment on va reconnaître le vrai Messie ? Ben, le vrai Messie, il sera très différent des faux. Il ne va pas essayer de séduire avec des vitrines enguirlandées, des vitrines de Noël, des lumières partout. Non. Son langage sera le langage de la vérité. Et la vérité, ce n'est pas forcément ce qui est séduisant. Je répète, car je viens de donner la clé de la délivrance. une vraie vérité, elle n'est pas forcément séduisante. Elle n'est pas forcément attirante. C'est pas un beau fruit que tout le monde regarde. La vraie vérité, on peut passer à côté sans même la voir. Parce que l'authenticité, ce n'est pas de l'artifice. L'authenticité n'est jamais maquillée, elle n'est jamais parfumée, et elle n'attire jamais, du moins dans un premier temps, elle n'attire jamais la majorité. Ça, c'est la vraie vérité. Le Mashiach sera un homme simple, qui viendra de nulle part et qui ne ressemblera à personne. Il ne viendra pas de l'élite thoraïque d'Israël. Ça ne sera pas le tzaddik que tout le monde connaissait déjà et que tout le monde attendait. Alors, quand si tu te dévoiles, quand si tu te dévoiles. Non. Il ne viendra pas sur un cheval en or. Il viendra sur un âne. Oui, sur un âne. Dans la simplicité la plus totale. On ne saura pas d'où il vient, qui il est, à quel clan il appartient, quel est son maître. Qu'est-ce qu'il est? De quoi il se réclame? Quelles sont ses références? Il sera tout et rien en même temps. La simplicité, un homme sur un âne. Pas attirant du tout. Personne n'aura envie de le suivre. Mais nous, on pensait que tu allais être un tel ou un tel. Celui dont le monde entier parle. C'est quoi ça? Ça, c'est le Messie? C'est le Mashiach sur un âne? Quoi, c'est ça qu'on attendait? Mais non, mais nous, on veut du feu d'artifice, nous, on veut le plus beau fruit, du plus bel arbre. Non. Quand Dieu s'est révélé à Moshe, c'était dans un petit buisson. Moshe lui-même s'est étonné, disent nos maîtres, mais enfin, maître du monde, le monde entier est à toi, tu ne peux pas te manifester... dans un arbre extraordinaire. Et pourquoi sur le mont Sinaï? Mon maître dit que c'était une petite colline, la plus petite de toutes les montagnes qu'il y avait dans le Sinaï. Parce que le bon Dieu, c'est un vrai bon Dieu. Il est authentique. Il ne cherche pas la grandeur. Il cherche la simplicité, l'authenticité. C'est pour ça que le Mashiach, dans un premier temps, quand il va se dévoiler, mais personne ne va faire attention à lui. Personne ne va l'accepter, personne ne va le reconnaître. Il n'est pas séduisant, son idéologie, elle n'attire pas. C'est sûr que c'est plus facile de dire « Waouh, cet arbre est le plus beau » que de dire « Cet arbre est interdit ». C'est la raison pour laquelle le Nahash était plus fort qu'Hachem. Hachem dit « L'arbre est interdit », le Nahash dit « Mais non, c'est le plus beau, le plus fort de tous ». Lequel des deux est le plus séduisant? Celui qui te dit « ne mange pas » ou celui qui te dit « mange, tu vas recevoir des forces, des lumières incroyables ». Et donc c'est comme ça qu'on reconnaîtra le vrai Messie. Ça sera un homme sans artifice, sans vitrine, sans gros moyens, sans nom particulier. La simplicité absolue, c'est-à-dire l'authenticité véritable. Bon, allez, qu'il se révèle déjà. C'est sûr que ce sera très 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 dur, parce qu'il aura tout le monde contre lui. Parce qu'il viendra d'un endroit où personne n'imaginait qu'il pourrait sortir. La déception sera énorme. Ah, on pensait que c'était un tel, on pensait que c'était un tel. Mais pas ce plouc-là. La Torah nous a déjà tout expliqué. Plus c'est séduisant, plus c'est grand, plus c'est lumineux, plus c'est roi, plus c'est des milliards qui le suivent, et plus tu peux être sûr, c'est un véritable mensonge, un serpent, un faux messie. Celui qui est tout seul. Celui qu'on a du mal à suivre. Celui qu'on a du mal à accepter. C'est celui-là le vrai Messie. Amen, Bechemi Ratzon.